Bonjour.
Les titres de votre journal.
L'Assemblée de Corse ne tiendra pas sa séance publique sur les dérives mafieuses avant mars 2020. Décision prise collectivement par les présidents de l'Assemblée, de l'exécutif et ceux des différents groupes. Leur volonté, se donner le temps de préparer les débats à travers des auditions. Il vous reste 2 jours pour payer la taxe d'habitation. Après une baisse d'un tiers en 2018 sur les résidences principales, cette taxe connaît une nouvelle diminution de 2 tiers cette année, en attendant sa disparition progressive de 2020 à 2022.
La session extraordinaire consacrée aux dérives mafieuses dans l'île n'aura pas lieu avant mars 2020.
Autrement dit, après les municipales, hier, les présidents de l'Assemblée, de l'exécutif et les représentants des différents groupes ont fixé une méthode qui s'appliquera en amont. Il s'agit avant ce jour J de procéder à des auditions de responsables de services de l'État, de représentants de la société civile et d'experts pour bien préparer le débat, récolter des données objectives sur l'existence d'une mafia et son action exercée sur l'île, notamment dans le monde économique. Une annonce qui a été faite également sur fond de polémique, puisque les propos tenus par Marie-France Giovannangeli sur notre antenne, c'était en fin de semaine dernière, font des vagues. Au nom du collectif Mafiano, cette dernière citait un certain nombre de noms d'élus en lien plus ou moins direct avec des personnes supposées appartenir au grand banditisme. Première à réagir, Patrick Vinciguer, la présidente du groupe La Corse dans la République à l'Assemblée de Corse, Valérie Bozzi, qui parle de dérive et de dérapage.
Aujourd'hui, comme hier, déclarait Marie-France Giovannangeli, on trouve une proximité entre des élus et des personnes qui ont été soit impliquées, soit dont les noms sont revenus très souvent dans des problèmes de gangstérisme importants, et la porte-parole du collectif Mafiano dégrainait les noms de plusieurs personnalités politiques, Jean-Guy Talamone, Paul Jacob, Jean-Charles Orsouch et donc la maire de Grosseto Prugna, Madame Bozzi, je cite, fille d'une mairesse qui a été assassinée, elle-même sœur d'un membre connu de la bande du Petit Bar. Valérie Bozzi se dit profondément choquée et meurtrie, précisément qu'avocate et élue depuis 10 ans, elle n'a jamais été condamnée.
J'ai été attaquée personnellement, d'autres élus aussi, et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'ensemble des élus là, qui sont élus au suffrage universel, qui sont respectables et qu'on doit respecter. C'est une présomption de culpabilité qui a été insinuée et même précisée par cette personne.
Valérie Bozzi et les autres élus qui ont reçu le soutien de la Ligue des droits de l'homme, qui s'inquiètent de la répétition de ces dérives dangereuses pour les personnes citées. Condamnation aussi très ferme du président de l'Assemblée de Corse. Je ne peux laisser sans réaction, écrit dans un communiqué Jean-Guy Talamone, cette attitude qui consiste à donner des noms en pâture sans aucun fondement autre que la rumeur. À noter tout de même qu'à ce jour, aucune des personnes citées n'a déposé plainte en diffamation.
Les commémorations des attentats de Paris ce matin.
Et oui, le 13 novembre 2015, les attaques avaient fait 131 morts, plus de 400 blessés au Stade de France, devant des restaurants du 11e arrondissement de Paris et au Bataclan. 4 ans après, la menace terroriste en France se maintient à un niveau élevé, mais elle a changé de forme. Selon les services de renseignement, Daesh n'est plus en mesure de préparer des attaques terroristes du type 13 novembre, avec des commandos venus de l'étranger pour frapper en Europe. Conséquence des opérations militaires en zone irako-syrienne et de l'effondrement du califat de l'État islamique. On redoute en revanche le passage à l'acte de ceux qui ne sont jamais partis à l'étranger. Un terrorisme isolé, imprévisible, c'est une menace plus diffuse. Plus de 3000 individus radicalisés sont actuellement suivis par la DGSI. On en reparlera dans notre journal à 8h30.
Au chapitre social, Caroline, 20e jour de grève pour les facteurs de Bastia Cap.
Et toujours pas de courrier à Bastia, ville di Pietrabugno, San Martino et Santa Maria di Lota. Les dernières négociations n'ont pas permis de trouver un accord. Les personnels dénoncent une réorganisation interne qui pourrait conduire, selon eux, à la suppression d'une dizaine de tournées et donc de plusieurs postes. De son côté, Jean-Michel Roch, qui est directeur du courrier et colis à la Poste de Corse, indique que la direction a fait des efforts puisqu'on est passé de 10 tournées supprimées à 3. Une proposition qui a donc été rejetée hier par la CGT.
Une actualité sociale marquée également par un surprenant débrayage dans la desserte de bus à Ajaccio hier après-midi.
Une action menée par le STC, Force Ouvrière de la société Mouistrade. À l'origine de ce mouvement, une altercation ponctuée d'une agression entre 2 employés de cette entreprise. Un comportement déjà constaté par le passé. Et les 2 syndicats demandent donc à la direction de réagir.
Plus que 2 jours pour les contribuables pour s'acquitter de la taxe d'habitation 2019.
Une taxe d'habitation qui, comme l'a promis le gouvernement, est moins élevée cette année encore pour 80% des foyers. Après une baisse d'un tiers en 2018 sur les résidences principales, cette taxe d'habitation connaît une nouvelle diminution de 2 tiers cette année. En 2020, 2020, l'exonération sera totale. Toutefois, pour les 20% de foyers restants, il faudra attendre 2022 pour ne plus payer du tout de taxes d'habitation. Cette année, en Haute-Corse, on paye en moyenne 371 euros en moins, 375 euros en moins pour la Corse du Sud. Grégory Retard, lui, est directeur adjoint du Centre départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
La baisse, elle est bien effective. Le dispositif de baisse de l'ATH a été mis en œuvre progressivement depuis l'année dernière. Cette année, pour les foyers qui bénéficient de la baisse, c'est un gain moyen de 371 euros. Donc, c'est un peu plus de 40 000 foyers qui bénéficient de cette baisse sur la Haute-Corse. Pour bénéficier de cette baisse, le critère qui est retenu, c'est le critère du revenu fiscal de référence. Ça dépend un petit peu de la composition du foyer. Si on prend l'exemple d'un célibataire sans enfant, il faut que son revenu fiscal de référence soit inférieur à 27 432 euros. On a toujours un pic de fréquentation dans nos centres des impôts au moment des échéances. On met en place des dispositifs avec notamment des personnes qui peuvent accompagner notamment vers des libres-services pour les personnes qui ne seraient pas équipées d'ordinateurs aux différents centres des impôts.
Une enquête sur les villes de 10 000 habitants les plus endettées de France.
Elle a été publiée hier dans le Figaro, nous en parlions d'ailleurs dans nos éditions. Mais ce matin, on en sait un peu plus sur les communes insulaires. En Corse, Bastia et Ajaccio sont très loin dans ce classement. C'est du côté des petites communes que les difficultés se font parfois ressentir. Des communes, bien sûr, de moins de 10 000 habitants, avec des dettes qui atteignaient fin 2018 plus de 9 000 euros par habitant, par exemple pour Rosani ou encore à Oapès. En tout, plus d'une vingtaine de petites communes, souvent touristiques, affichent une dette dite élevée. Des chiffres qui peuvent paraître inquiétants au premier abord, mais qui ne reflètent pas la réalité. En fait, ils sont pris sur une période de creux entre la prise d'un emprunt et la perception de subventions. Et les conséquences sont donc fort heureusement quasi nulles pour les habitants, Marion Galland.
La plupart des communes endettées de l'île sont des communes comptant très peu d'habitants mais ayant un fort attrait touristique. Jocelyne Fazi, présidente de l'Association des maires de Corse du Sud.
Les communes touristiques, elles ont besoin d'infrastructures importantes. Vous savez, moi j'ai une commune qui fait maintenant, à l'heure qu'il est, 50 habitants. En été, on est 700. Donc il faut des infrastructures.
Niveau infrastructure, la commune d'Ozagne a par exemple dû dépenser 1,5 million d'euros pour le réseau d'assainissement de Girolate. À la fin de l'année 2018, sa dette s'élevait à 9 313 euros par habitant. Un véritable casse-tête pour François Alphonse, le maire de la commune.
Il y a quand même une grosse partie de cet endettement qui est liée à la nécessité de gérer des flux financiers qui induisent des investissements qui, par rapport à la taille des 100 habitants de la commune, sont effectivement des investissements très lourds. Et donc proportionnellement, par tête d'habitant, cela peut donner des ratios qui sont un peu aberrants.
Les travaux d'infrastructure sont subventionnés à hauteur de 80 ou 90%, mais les communes doivent avancer l'argent et patienter parfois des mois avant que les subventions arrivent. C'est pour cela qu'en attendant, les dettes explosent, même s'il n'y a pas forcément de conséquences pour les habitants.
Tant que les taux sont bas comme ils le sont aujourd'hui, les conséquences évidemment sont très limitées. Il est évident que si demain on devait avoir non pas 2% ou même un peu moins de taux d'intérêt, mais 15 ou 20%, tout serait différent.
Afin de faire face et de bien gérer ces problématiques, les communes peuvent participer à des stages organisés par les associations des maires.
Et toute l'actualité, elle est à retrouver sur notre site internet bleurcfm.com.